Alors, on vient de voir un peu de la mécanique de la distribution des vaccins, le calendrier. On va regarder maintenant, je dirais, le vaccin comme tel, suite aux annonces qui ont été faites hier par Québec avec notre invité, le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
On a déjà parlé, vous et moi, il y a quelques jours, là, justement, de cette idée de prendre la deuxième dose, de la transformer en première dose afin de vacciner le plus de gens possible. Là, vous avez ce que j'appelle la fourchette là, pour la deuxième dose. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous apparaît correct compte tenu des impératifs, là, de l'objectif que le plus de gens possible soient vaccinés?
Alors, je pense qu'il faut essayer de diviser ça de la façon suivante. Oui, c'est correct d'avoir allongé le délai jusqu'à un certain point pour maximiser le nombre de gens qu'on veut vacciner. En bout de ligne, c'est ça qu'on veut faire pour diminuer la pression, surtout dans les populations à risque, sur notre système de santé. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que dans les études, l'étude de Pfizer, par exemple, la deuxième dose devait être donnée au jour 21. Maintenant, dans ce genre d'études, pour toutes sortes de raisons, parce que imaginez-vous que vous avez 15 000, 20 000 patients dans chacun des bras de l'étude, il y en a un qui se présente au jour 32 parce qu'il a oublié, il n'a pas pu. Donc, il y a des gens qui ont reçu la dose jusqu'au jour 42 de l'étude. Et les résultats semblaient tenir. Alors, si on regarde cet aspect-là, évidemment, c'est pas beaucoup de monde, mais on sait au moins que ça existe. Alors, le 42 jours, même Santé Canada, le Comité canadien d'immunisation l'a regardé et disons relativement confortable avec cette recommandation-là. Maintenant, aller jusqu'à 90 jours, dès qu'on va dépasser, on va dire 45-50 jours, là, on rentre dans une zone très grise où on fait un petit peu une expérimentation dans le sens que, oui, on prend un risque, on ne sait pas jusqu'à combien les gens vont être protégés dans le futur. Ce qu'il faut aussi comprendre avec la deuxième dose, c'est pour surtout, augmenter votre durée de la protection. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu ma première dose, je ne suis pas inquiet que pendant les 5-6 prochaines semaines, je vais être protégé. Disons, 14 jours après ma première dose, je vais être protégé au-delà de 90%. Mais une fois que j'ai passé cet intervalle de 6 semaines, 7 semaines, est-ce que là, je vais être protégé pour encore longtemps? Ça, je ne le sais pas et personne ne le sait. Alors, on est là, la seule province canadienne qui a augmenté sa fourchette entre 42 et 90 jours. Les autres provinces ont gardé 21-28, certains ont étendu jusqu'à 35, un petit peu plus long, mais globalement, je pense que oui, il faut distribuer les doses rapidement, mais si les autres le font comme ça, à ce moment-là, il faut quand même se limiter à une période qui probablement tournerait autour de 42 jours, donc à peu près 6 semaines, peut-être 7, mais il faudrait à mon sens pas dépasser trop cette zone-là. Sinon, ben, on sera peut-être obligé de donner une troisième dose et là, on rentre dans l'hypothétique finalement parce qu'on ne connaîtra pas la protection à long terme de ces gens-là.
Est-ce que je me trompe si je dis que si je tarde trop, là, si je dépasse en termes de semaines un certain calendrier, là, je risque d'affaiblir l'impact de la deuxième dose?
Tout à fait, sur la longue durée surtout, oui. C'est-à-dire c'est pas un arrêt immédiat, ça ne veut pas dire que oh, je suis au jour 43, mon Dieu, je ne suis plus protégé, mais normalement j'aurais été protégé, disons, parce qu'on ne le sait pas encore, on en est en train de suivre ces patients-là, on sait qu'ils sont au moins protégés pour 3 mois, 4 mois, mais disons que je reçois ma deuxième dose et ça me donne une protection pendant une période de 18 mois, disons que c'est ça que ça fait. Mais là, si je ne reçois pas ma deuxième dose selon le calendrier qui a été fait, ben, au lieu d'avoir une protection de 18 mois, ben, on va dire à 12 mois, il y a déjà 50% des gens, je ne le sais pas encore, mais qui ont 50% des gens qui ont eu leur dose numéro 2 trop tardivement, qui n'ont plus une protection adéquate. Donc, c'est un risque qu'on prend. Je comprends qu'il faut vacciner le plus de monde le plus rapidement possible, ce avec le quoi je suis d'accord. Mais d'un autre côté, on ne peut pas trop non plus tirer l'élastique parce qu'on est passé de 21 jours à 42. On a déjà doublé la quantité. C'est faisable. Mais au-delà de ça, on rentre vraiment dans une zone là très instable et de sable mouvant.
Avez-vous l'impression que si, comme vous dites, on tire un peu trop l'élastique, la compagnie Pfizer va être réticente à nous envoyer des vaccins?
Ben ça, ce sera un choix de la compagnie Pfizer. Il faut dire qu'au Québec, on a déjà fait certaines choses avec d'autres vaccins où on n'a pas suivi les calendriers vaccinaux. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Il y a des questionnements et des zones grises à ce niveau-là aussi. Et même si dans certains cas, le Québec, dans un cas exceptionnel, le Québec, oui, a bien fait peut-être d'étendre certaines doses, mais il est clair que dans la compétition actuelle, la compagnie pourrait dire, bon, écoutez, on a d'autres clients sur la planète, ils pourront prioriser, on va dire, d'autres clients avant de nous prioriser à nous. C'est un risque qui existe, qui est pas impossible, mais Pfizer est quand même une compagnie qui a une certaine responsabilité sociale et donc je pense pas que ce serait de l'intérêt de la compagnie de faire ce genre de choses-là. C'est une décision qui est une décision québécoise et il va falloir qu'on fasse attention. Maintenant, il faut aussi savoir que peut-être que dans un an, et on ne sait pas, peut-être qu'on aura raison au Québec, peut-être qu'on va dire et on va le découvrir que si vous avez moins de 50 ans, vous êtes en pleine forme, puis vous êtes un travailleur de la santé, peut-être qu'une dose, c'est suffisant. On ne sait pas encore. Et là, on met un amalgame, on met tout le monde ensemble. Vous savez, une jeune infirmière qui a 23 ans, qui est en pleine forme, elle ne répond pas au point de vue immunitaire de la même façon qu'une vieille personne de 90 ans dans un CHSLD. Alors, on va donner deux doses à tout le monde, mais est-ce que tout le monde a besoin de ces deux doses? On ne le sait pas pour l'instant. Alors, on a appliqué la même recette à tout le monde, mur à mur. Alors, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais dans le contexte, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vacciner le plus de monde possible, mais ne pas non plus tirer trop l'élastique pour qu'on se retrouve avec une protection insuffisante par la suite. Sinon, on va perdre l'efficacité potentielle de ce vaccin-là, surtout pour les groupes les plus à risque, parce que plus, par exemple, on sait qu'il existe aujourd'hui un phénomène qui s'appelle, qui est tout simplement l'immunosénescence, c'est-à-dire qu'avec l'âge, hein, notre système immunitaire diminue naturellement, notre système immunitaire est moins efficace, donc peut-être que les gens de 80 ans et plus, leur deuxième dose est beaucoup plus importante que si vous êtes des employés du système de santé dans la vingtaine. Or, les employés du système de santé dans la vingtaine, ils seront pas très malades. On va les vacciner pour en avoir, pour qu'ils soient là, pour qu'ils soient pas malades, pour qu'ils soient pas absents, pour qu'ils n'infectent pas les autres. Mais ceux qui ont 80 ans et plus, on les vaccine parce qu'on veut pas qu'ils aillent aux soins intensifs, on veut pas qu'ils soient hospitalisés et on veut pas surtout qu'ils meurent. Alors, l'impact n'est pas le même et on ne connaît pas actuellement l'efficacité du vaccin selon les différentes tranches d'âge. Mais je vous dirais, d'un point de vue théorique, il faut tenir compte de ça.
Bon, ça m'amène sur un autre terrain, c'est-à-dire celui du délestage dans les hôpitaux. On a vu hier encore le nombre d'hospitalisations augmenter. Il n'y a rien qui indique que la tendance va s'inverser, en tout cas rapidement. Je vois ce matin le redéploiement d'infirmières, d'infirmiers, de professionnels, de médecins, parce qu'il faut faire de la place pour les cas COVID, avec comme conséquence que des patients non COVID seront pas opérés, seront pas traités. C'est pas des cas super urgents, mais ce sont souvent des cas de qualité de vie ou qui peuvent, enfin, ces délais-là, affecter un pronostic pour plus tard. Il y a un de vos collègues ce matin dans une entrevue à la presse, le médecin docteur Michel Demarchi, qui est intensiviste, qui dit, comme beaucoup de ses collègues, qu'ils en ont pas mal assez de voir ces gens qui ne respectent pas les consignes ou qui croient pas au virus et qui se retrouvent malades et qu'on doit traiter et tasser des patients qu'on devrait traiter. Vous en pensez quoi, vous?
Ben écoutez, moi je connais très bien le docteur Demarchi, je travaille avec lui régulièrement et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. C'est clair qu'une grosse partie des gens qu'on hospitalise sont des gens qui ont attrapé la COVID quelque part et qui ont quelque part pas respecté les consignes. Bien sûr, il y a toujours des malchanceux, c'est clair. Il y a des gens, on en a vu, qui ont fait presque tout, mais qui ont fini par tomber malades. Je vous dirais, dans les services, par exemple, de CHSLD, c'est clair que malheureusement, les gens ont été infectés soit par des travailleurs de la santé, soit par des visiteurs, qui soient des proches aidants ou autres. Donc, ces gens-là, malheureusement, c'est triste à dire, mais on leur a apporté la COVID. Mais il y a un certain nombre d'individus, c'est clair, les plus jeunes qui sont autonomes, ambulants, des gens qui sont des fois en bas de 70 ans, mais, ou qui ont voyagé, qui reviennent avec la COVID et qui finissent par mal tourner et qu'on est obligé de garder aux soins intensifs. Mais c'est un choix éthique de société. On n'est heureusement pas dans une société où on va commencer à choisir qui on traite ou qui on traite pas. Alors, en tout cas, dans ce contexte-là, ça devient un choix sur l'aspect de l'utilisation des ressources. Il est vrai actuellement que le délestage fait très mal, au système de santé. On aura un prix très fort à payer dans le futur par rapport à ça. Je pense qu'il y a, je vous en ai parlé, beaucoup de mes collègues dans d'autres spécialités, en chirurgie, en hématologie, on en a déjà parlé. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue éthique? On ne peut pas refuser des soins à un patient. C'est comme si je vous disais à la limite, vous fumez, ben écoutez, vous avez un cancer du poumon, ben c'est tant pis pour vous. Ou vous mangez mal, vous avez un problème cardiaque, vous n'avez pas fait d'exercice, ben on vous fera pas un pontage. Alors, on rentre dans une pente qui est très glissante. Évidemment, la COVID, c'est une maladie infectieuse. C'est quelque chose qui est, tout le monde est au courant. C'est relié à quelque chose d'aigu, hein, le tabac. Il faut que vous fumiez 30 ans pour avoir un cancer du poumon. La COVID, il faut que vous fassiez deux parties pour potentiellement l'attraper. Alors, c'est clair qu'on n'est pas dans le même jeu.
Mais, Dr. Veil, j'allais vous dire, il faut que les gens comprennent une chose, qu'un patient COVID hospitalisé, c'est quoi? Minimum 14 jours à l'hôpital, il occupe un lit, il occupe du personnel. Et ce 14 jours-là, on pourrait, par exemple, dans certains cas, faire des patients avec pontage, des gens qui seraient hospitalisés pour des chirurgies moins invasives peut-être, qui passeraient un, deux jours à l'hôpital. Donc, c'est beaucoup de patients tassés pour un cas COVID.
Vous venez de très bien résumer l'ensemble du tableau. Regardez, dans mon hôpital, on est obligé de délester beaucoup toute la chirurgie cardiaque. Alors, supposons que si vous avez une chirurgie cardiaque, on va dire qu'en moyenne, si tout va bien, vous sortez de la salle d'opération et vous allez aux soins intensifs pendant 2-3 jours. On va mettre 3 jours pour faire un chiffre rond et se donner un petit peu de latitude. Eh bien, tous les 3 jours, le patient sort, s'en va à l'étage, commence un processus de réhabilitation. Mais le patient COVID, il va rester 15 jours aux soins intensifs. Donc, pendant ces 15 jours, il va occuper 5 fois 3 jours, si vous voulez, de soins intensifs. Donc, il y a 5 patients qui auraient pu être opérés, qui serait resté 3 jours aux soins. Peut-être il y en a un de temps en temps qui complique, mais quand même, il reste 3 jours aux soins, il quitte, mais là, le patient de COVID, il reste 15 jours. Donc, on vient de bloquer 5 chirurgies cardiaques qu'on peut pas faire. Alors, vous avez tout à fait raison, vous venez d'expliquer de façon claire pourquoi cet effet est un effet domino et on pourrait faire la même chose pour les grosses chirurgies, on pourrait faire la même chose pour un paquet d'autres affaires. Par la suite, les greffes, hein, vous avez vu qu'on a les greffes rénales sont quasiment arrêtées. Donc, oui, alors c'est un petit peu ça le prix qu'on a à payer. C'est aussi le prix de tout l'aspect des tests. Vous voyez, moi j'ai des patients qui ont des problèmes, par exemple, d'abcès dans le ventre, qui sont stables, mais parce que ma collègue chirurgienne ne peut pas forcément les opérer rapidement, je suis obligé de les garder sur des antibiotiques intraveineux. Parce que je peux pas arrêter parce qu'ils peuvent pas être opérés. Alors c'est un cercle vicieux. Alors normalement on aurait dû les opérer, on aurait dû arrêter ça, les antibiotiques relativement rapidement après la chirurgie. Mais là je suis pas capable de les arrêter parce que si je les arrête, ils vont se détériorer. Mais ma pauvre collègue chirurgienne se débat pour avoir des priorités opératoires qu'elle n'a pas. Alors on est dans un cercle vicieux. Ça c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Mes collègues en orthopédie malheureusement ont eu beaucoup de coupures de leur salle d'opération. Ils me le disent, nos patients, on leur met pas leur prothèse, mais comme ils ont mal, on les bourre de médicaments pour la douleur. Donc, ils s'habituent aux médicaments pour la douleur, ils se détériorent, c'est pas mieux non plus. Donc, tout ça, c'est un prix qu'on aura à payer par la suite.
Encore une fois, merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Ça peut pas être plus clair, je pense, sur l'importance de respecter les règles. On pourra faire un grand débat, là, sur combien nous coûte la santé au Québec, puis pourquoi on est mal organisé, pourquoi on manque d'infirmières, pourquoi on manque de personnel, pourquoi on a... Mais sérieusement, là, je suis pas sûr que le 15 janvier, en pleine pandémie, c'est hyper constructif. Ce que vous devez, et je pense qu'il y a quelque chose à retenir des propos du Dr Weiss ce matin, là, c'est que quand vous avez la COVID, puis là, je parle de gens qui pensent que ça n'existe pas ou des gens qui décident de s'en foutre, puis il y en a beaucoup, là, malheureusement, ben vous prenez la place peut-être de votre conjoint, d'un de vos enfants ou encore d'un voisin ou d'un ami qui aurait été opéré, puis à cause de votre négligence, puis à cause de vous, il ne sera pas. Et ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et de plus en plus de médecins commencent à le dire ouvertement, là. Tu sais, quand tu vois arriver un patient COVID, puis tu fais son historique, là, puis tu dis, moi, j'intube quelqu'un là, qui était sur le party, puis qui... On choisit pas. Tu sais, on... soigne tout le monde, mais comprenez que c'est un peu frustrant. On va aller retrouver Marc. On a eu un matin qui a commencé avec du brouillard, là, ça se tasse bien sûr.